Dire ou ne pas dire? Voilà la question, question générique pour tous dans la vie chez le psy sur les réseaux sociaux. Affaire de sincérité, de vérité, d'exactitude pour l'histoire, pour soi, pour les autres. Mais dire comment et quoi, tout, un peu, affaire de mots.
Pascal Paradou.
Voilà très exactement 20 ans, Catherine Millet, la très sérieuse directrice de revue spécialiste d'art contemporain, publiait La vie sexuelle de Catherine M., succès planétaire et début d'une œuvre autobiographique qui se poursuit aujourd'hui avec un nouveau récit, Commencement. Bonjour Catherine Millet.
Bonjour.
Commencement, pas d'article et au pluriel. Toutes les lettres comptent.
Oui, y compris lorsqu'elles sont absentes, par exemple. Oui, il n'y a pas d'article, peut-être parce que ça rend mieux compte ce commencement comme ça, en effet, de la manière dont on se jette à l'eau dans la vie, finalement, lorsque certaines conditions sont là ou pas là, d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, je raconte mes débuts dans la vie, qui sont celles d'une petite jeune femme qui n'a pas spécialement de savoir, pas spécialement d'argent, pas vraiment une famille derrière pour ne serait-ce que lui soutenir le moral, etc. Donc voilà.
C'est le livre du passage de l'adolescence, donc de la jeune fille que vous êtes, puisque le livre commence, oui. Vous avez à peu près 16 ans, à l'âge adulte, et c'est l'âge de toutes les découvertes.
De toutes les découvertes sexuelles, bien sûr, alors amoureuses et sexuelles. Mais aussi professionnel. C'est mes débuts dans la vie professionnelle. J'ai commencé à publier très, très tôt. J'avais tout juste 20 ans. Et c'était commencement au pluriel, c'est tous ces commencements-là. Mais c'est aussi, je m'en suis rendu compte un jour que j'avais fait ces débuts dans la vie professionnelle au moment où se mettaient en place un certain nombre d'avant-gardes dans le milieu artistique. Qu'on allait appeler dans les années qui allaient suivre l'art contemporain. C'est devenu presque un concept, vous savez. Les gens d'ailleurs souvent vous demandent, mais qu'est-ce que c'est l'art contemporain? Bon, bah, c'est l'art en train de se faire, mais pas, ça ne se confond pas complètement avec ça non plus. Donc voilà, j'ai voulu entrelacer toute l'histoire de tous ces commencements.
Donc ce n'est pas par pure nostalgie pour une adolescence?
Non, parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est un moment très dur. Si des adolescents actuellement nous écoutent ou s'ils mettent la main et le nez dans mon livre, sans doute, ils vont y trouver l'écho à leurs propres difficultés. On est pris dans des tiraillements amoureux, des interrogations sur la sexualité et puis sur son avenir qui sont terribles. Donc, voilà, ils vont se reconnaître là-dedans, quoi.
Alors, vous racontez, Catherine Millet, votre vie à cette époque-là. Donc, on est à la fin des années 60, c'est au moment de mai 68.
Oui.
La découverte de tous ces artistes qui vont former l'art contemporain. La découverte aussi d'une sexualité, d'une vie d'adulte, de vie amoureuse. Et fidèle à vous-même, j'ai envie de dire, vous racontez tout.
Non.
Non.
Vous croyez que je vous raconte tout, mais c'est pas tout à fait exact. Non. Alors, oui, moi, je pensais que, étant donné, les autres ouvrages autobiographiques que j'ai pu publier, j'ai une sorte d'obligation finalement vis-à-vis du public. J'en ai déjà dit beaucoup. Et je m'étais posé la question d'ailleurs, je me suis dit, est-ce que racontant ma vie professionnelle, j'évoque aussi la vie sexuelle que j'ai pu avoir avec des artistes qui certains sont connus. Bon. Ce sont des histoires anciennes, je dirais qu'il y a un peu prescription. Et puis de toute façon, c'est des gens qui avaient confiance en moi, en qui j'avais confiance. Je pense que ce n'était pas un très gros problème de révéler certaines liaisons que j'ai pu avoir dans ce milieu. Oui.
Mais vous vous êtes posé la question de ne pas dire certaines choses. Vous vous auto-censurez?
Non, je ne me suis pas auto-censurée, mais disons que j'ai peut-être pas insisté. De toute façon, ce qui est vraiment description de la sexualité, très précisément dans la description des actes, par exemple, ça, tout ça est contenu dans la vie sexuelle de Catherine M. Bon, donc je n'avais pas à y revenir, mais je trouvais plus honnête lorsque vraiment un lien très très intime s'était noué entre un artiste et moi de le dire, d'autant que je n'ai aucun scrupule, parce que ce sont chaque fois des artistes avec qui j'ai aimé travailler, par exemple, dont j'ai aimé beaucoup le travail, et très sincèrement, et avant même parfois de les rencontrer. Donc pour moi, les choses se sont mêlées, mais ça a toujours été très, très clair, quoi.
Et jamais la mémoire ne défaille.
Alors, il paraît que j'ai une très, très bonne mémoire. Bon, il faut déjà ça, je crois, lorsqu'on se lance dans un travail autobiographique. C'est vrai aussi que je suis du genre à avoir, vous voyez, des cartons pleins de documents dont on pense qu'ils ne servent plus à rien, mais qu'on garde quand même. Voilà.
Donc, vous notez tout, et vous notez tout depuis le début, parce que c'est saisissant quand même de vous lire, Catherine Millet. À certains moments, vous racontez la position du bras d'un homme sur votre corps, mais aussi la couleur de la quatrelle avec laquelle vous sillonnez l'Europe, ou les expos que vous voyez.
Oui, non, mais alors, moi, je suis une visuelle. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que mon métier, c'est en fait d'être critique d'art. J'enregistre tout par l'œil et j'enregistre beaucoup. Alors, on ne sait pas pourquoi la mémoire évacue complètement certaines images, il faut dire. Bon, mais elle en garde aussi, qui sont parfois des détails infimes. Et on se dit, mais d'ailleurs, on pourrait s'interroger, pourquoi j'ai gardé en tête ce geste précis? Bon, alors évidemment, si j'étais Marcel Proust, je l'analyserais très, très longuement dans des pages et des pages. C'est pas mon cas, mais je pense que c'est important d'avoir ce souci du détail lorsqu'on écrit, parce que c'est comme ça aussi qu'on maintient l'attention du lecteur, non?
Vous êtes visuel, mais vous êtes écrivain aussi. Vous avez toujours voulu écrire et vous l'êtes devenu réellement, totalement, complètement avec la vie sexuelle.
Je pense que j'écris d'une manière très, très visuelle. Je pense que je décris beaucoup des scènes, des objets. Je décris même d'une façon très, très précise peut-être la plus belle robe que je me suis achetée. Voilà, et j'en ai gardé un souvenir très, très précis aussi.
Comment je suis devenue Catherine M. Ce pourrait être le sous-titre de votre nouveau récit. Vous nous raconterez tout après UTO, souvent, parfois, la nouveauté du jour.
Souvent, parfois, depuis des mois, depuis mes bois, je pense à ça. Souvent, parfois, de toi à moi, depuis des mois, depuis des bois, je pense à ça. J'envoie des voix, j'ai mis les voix, je me débat souvent, parfois. Son témoin s'emballe en moi, je me débat souvent, parfois semblable à toi, je sais pas pourquoi maintenant t'es loin. Depuis des mois que je suis là, parmi ces bois, je file droit, j'envoie ma voix de là vers toi, s'emballe ma voile malgré les fois. La nuit est noire, parfois je bois, j'entends des voix qui te ressemblent.
Touch the Lock, premier album du duo français UTO. Pour vous, Catherine Millet, ce n'est pas le premier livre, mais Commencement raconte vos débuts dans la vie, une vie assez exceptionnelle, car vous avez rencontré des dizaines d'artistes qui ont fait l'histoire de l'art contemporain. Petit aparté, avez-vous déjà rencontré Jean-Luc Godard, dont on a appris le décès ce matin ?
Non, j'ai essayé de le rencontrer. C'était très drôle parce que il se trouve que nous avons fait, je crois, à Art Press, deux numéros hors série avec Jean-Luc Godard. Et pour le lancement d'un de ces numéros, je voulais lui demander de venir gentiment assister à ce lancement. Et j'avais fini par l'attraper au téléphone et il m'avait dit non, écoutez, c'est comme ça avec sa voix traînante. Non, écoutez, c'est pas possible parce que vous comprenez, il aurait fallu qu'on se rencontre comme ça par hasard dans la rue. Alors je lui dis, bah, si vous voulez, moi je prends le train et je vais jusqu'à là où vous habitez, et puis je traîne autour de votre maison et ah non, ça serait de la triche. Bon, mais oui, bien sûr, on a été très attentifs au cinéma de Jean-Luc Godard. C'était même à un moment donné un des piliers comme ça dans les pages d'Art Press.
Il faut dire qu'il a dépassé les frontières du cinéma proprement.
Alors,
cinéma, c'est un artiste, il a été exposé à Beaubourg par exemple.
Oui, c'était une... Entre parenthèses, c'était une expo un peu bizarre. Hein. C'était un peu du bricolage. On a l'impression qu'il avait déménagé sa maison et puis qu'il l'avait comme ça livré en vrac dans les salles du Centre Pompidou. Non, moi j'ai surtout le souvenir d'un film absolument magnifique qui était Passion. Pour lequel il avait eu cette idée très très belle de faire des tableaux vivants à partir de grands tableaux comme ça, je sais pas, la mort de Sardanapale, bon, avec des acteurs qui prenaient la pose. Et un très bon ami à moi, Bernard Dufour, qui est un peintre qui est décédé aujourd'hui mais qui est très important, avait été d'ailleurs conseiller sur le plateau pour ce film. Donc oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a largement dont l'influence a largement débordé celle du cinéma.
Alors, pour le plaisir d'entendre Godard, c'était au Festival de Cannes en 2001, il revendiquait son rôle d'artiste.
À partir du moment où, si vous voulez, Renault s'appelle non plus fabricant d'automobiles, mais créateur d'automobiles, moi, je peux plus m'appeler créateur de films. J'estime qu'en tant qu'artiste et qu'auteur, j'ai le droit de... Et par rapport à moi, le devoir de le mettre dans une situation particulière, mais en analysant les choses, en disant c'est étrange, il n'a pas d'idée, donc il va les chercher ailleurs. Nous, quand on n'a pas d'idée, on regarde d'abord en nous-mêmes un peu.
JLG, Jean-Luc Godard, qui aura donc révolutionné le cinéma, comme les artistes que vous avez rencontrés, Catherine Millet, et que vous nous racontez dans ce livre Commencement. C'est d'ailleurs un peu le woo-woo de l'art contemporain, parce que vous avez tous connu.
Non, loin de là. J'ai connu ceux qui ont été au démarrage de donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain. J'ai rencontré ce que je crois être les très grands artistes de ces courants un peu sévères pour le public comme ça qui est pas vraiment encore au courant, ce qu'on a appelé l'art minimal par exemple ou l'art conceptuel. Ça, oui, c'est des gens où avant eux, toute une forme d'abstraction comme ça, très, très radicale. Là, oui, j'ai rencontré beaucoup de ces artistes.
Oui, vous avez rencontré beaucoup d'artistes américains. Vous avez aussi rencontré beaucoup d'artistes français.
Oui,
vous parlez de
Legac,
de Boltanski, de César, dont vous avez partagé la vie
Bertrand Lavier.
À un moment, de Bertrand Lavier, etc. Mais alors, ce qui est surprenant à vous lire, c'est que cette vie, vous l'avez désirée sans vraiment la désirer. Ce n'est pas le roman d'une ambitieuse, par exemple.
Non, enfin... Ou alors, mon ambition, peut-être, c'était simplement d'écrire, quoi. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, cette ambition, elle a été satisfaite par le fait que j'ai publié très vite, très facilement, des articles qui intéressaient les gens. Ils les intéressaient d'autant plus que j'étais la seule, pratiquement, à l'époque, à écrire sur ce type de sujet. Donc, tout allait bien, mais j'avais pas envie. Comme je le dis, j'ai vécu au début avec un marchand, qui est Daniel Templon. J'avais pas envie. D'abord, lui non plus, il pensait pas qu'il allait avait un jour gagné vraiment beaucoup d'argent avec ce qu'il montrait. On n'avait pas une ambition à caractère social, vous voyez. On avait juste... La seule ambition, je vais vous dire, c'était d'être libre. C'était de faire ce qu'on avait envie de faire. Voilà, de s'intéresser à des choses, des artistes, des œuvres, même si, par exemple, à l'époque, ça n'intéressait personne. Voilà, on avait cette liberté.
C'était une vie de somnambule, écrivez-vous. Enfin, ou vous écrivez plus exactement que, écrivant ce livre, vous réalisez que vous avez eu une vie de somnambule.
Parce que je la revisite aujourd'hui, je la comprends aujourd'hui. Mais ça, c'est quelque chose dont Proust parle aussi très très bien, hein, à propos de la recherche. Je pense que la vraie vie, c'est celle qu'on revit à travers l'écriture lorsqu'on a cette chance. Et c'est là que on se rend compte peut-être de la profondeur vraiment de certains sentiments qu'on a éprouvés, mais sur le moment on était pris aussi dans notre vie active, on s'y attardait pas ou on balayait ça pour tout de suite faire autre chose, passer à autre chose. Je crois beaucoup à ça, donc c'est ça que j'appelle être somnambule. On mesure pas tout ce qui nous pénètre tout de suite, ni vraiment les conséquences de tous nos actes.
Alors, il y a dans ce livre, Catherine Millet, un personnage essentiel, vous l'avez nommé, c'est Daniel Templon, que vous rencontrez à 16 ans, avec qui vous allez vivre pendant 10 ans et tout partager. Les jeux érotiques à plusieurs, ce que vous appelez partouze,
oui.
Tout simplement, même si le mot peut paraître comme ça un peu...
Ouais, c'est pas un très joli mot, mais il existe que dans notre langue d'ailleurs.
Il existe que dans notre langue. On dit comment en anglais?
Orgie.
Donc, les partous, mais aussi la découverte des artistes qui marqueront la deuxième moitié du XXe siècle. Souvenir.
1968, nous allons, Catherine et moi, à Documenta pour voir ce qui était à l'époque la plus grande manifestation artistique en Europe. Et nous découvrons à Documenta tout le pop art américain. Et on s'est dit que ce que nous avions entendu dire en France, savoir que la peinture dite de l'école de Paris était dominante, cette idée-là, pour nous, s'écroulait. Donc on découvre la grande peinture américaine, celle qui a fait l'histoire, le pop art, et on se dit, il faut que le public français découvre ce qui est véritablement, selon nous, l'évolution de l'art contemporain pendant quelques décennies. Et pourquoi ne pas faire une revue d'art qui permettait d'avoir une fonction naturellement pédagogique, mais en même temps de nous permettre de parler des artistes qui étaient représentés par ma galerie.
Et ainsi commence l'aventure d'Art Press, dont vous serez la rédactrice en chef, Catherine Millet, et qui est la grande revue de référence de l'art contemporain de ces années 70, 80, 90.
Qui va fêter à la fin de l'année ses 50 ans.
50 ans donc de référence dans l'art contemporain, alors que rien ne vous prédestinait à être la papesse de l'art. Vous êtes autodidacte,
oui,
et
oui,
vous
oui.
Racontez que vous ne vous souciez mais absolument pas de l'histoire de l'art. C'était l'art du présent qui vous intéressait.
Non, alors si, je m'en souciais quand même. C'est d'ailleurs, je ne le maîtrisais pas. Je n'ai pas fait d'études d'histoire de l'art. Et puis, je suis tombée tout de suite dans cette marmite des avant-gardes. Alors quand même, non, je ne me faites pas passer pour quelqu'un de pas sérieux. Non, j'avais des références. C'est-à-dire que si on m'envoyait dans une galerie pour voir une exposition et que l'artiste en question exposé était déjà un petit peu connu, moi, j'essayais de me procurer déjà ce qui avait été publié sur lui. Vous voyez, je me documentais. Et puis, bon, c'est vrai que... Plus je suis rentrée dans ce métier de critique d'art et plus j'ai eu envie de connaître la peinture. Et je me souviens qu'il y a eu toute une période comme ça, ce qu'on a appelé d'ailleurs pour notre génération le retour au musée. C'est-à-dire que ces gens qui fabriquaient des œuvres d'avant-garde ont eu besoin à un moment donné de mieux aller regarder les œuvres du passé. Et c'était vrai pour les artistes, c'est vrai pour ceux qui les accompagnaient, les marchands, les critiques d'art. Et là, on a passé des semaines à voyager en Italie, aux Pays-Bas, pour aller visiter les musées, ou en Allemagne, etc. Non,
Mais vous n'arrivez pas face à une œuvre d'art avec une espèce de corpus idéologique ou historique.
Non.
À un moment, vous dites dans ce texte comment commencement. C'est au tout début, vous écrivez, non pas dans Harper's, qui n'existe pas encore, mais dans une revue avant. Chaque fois que j'arrivais dans une galerie, voir une œuvre que je ne connaissais pas, je suis pénétré par une inquiétude diffuse. J'attendais de comprendre.
Oui,
c'est-à-dire dans une situation...
D'attente, de réception, en fait, je pense. Je pense qu'on est dans, pour aller chercher une comparaison chez les psychanalystes, j'irais qu'on est, alors non pas dans l'écoute flottante, mais dans l'observation flottante. Voilà. On est en face d'objets qu'on a priori un peu du mal à définir. Et puis, on se laisse aller, quoi. Quel effet ça a produit sur moi ? C'est aussi très phénoménologique, comme ça, comme approche. Quel effet ça fait sur moi ? Est-ce que j'ai déjà éprouvé ce genre de réaction que j'ai là ou pas ? Bon, voilà, c'est le point de départ pour essayer un petit peu mieux de comprendre ces œuvres.
Et ça passe par le corps, ça passe par l'intellect, mais aussi l'impression
physique.
Oui, moi,
je suis très sensible à ça. Oui, je suis très sensible parce que aussi je me suis intéressée, comme je l'évoquais à l'instant, à des œuvres, par exemple, abstraites, dont les effets produits sont presque comparables à parce que souvent c'était concernant les Américains des très grands formats, presque à des effets d'architecture en fait. Vous voyez, bon, vous êtes pris dans un espace, bon, et vous êtes attiré, absorbé par cet espace. Donc vous le ressentez physiquement, oui, c'est vrai.
C'est ce que vous appelez la coprésence, c'est-à-dire la présence de celui qui regarde avec l'œuvre.
Oui, d'où l'importance dans notre époque où on est tellement dominé par l'informatique, par le virtuel, de continuer à avoir un rapport avec ces arts qui vous mettent en contact avec des objets et des corps concrets, le théâtre, la performance et les arts plastiques. Oui.
Alors sur ce thème, Catherine Millet, il y a dans votre livre Commencement de très très belles pages avec cet extrait que j'aimerais que vous nous lisiez.
La force du souvenir de la coprésence compense les lacunes dans la trace de l'image. La mémoire du corps pallie la mémoire visuelle. D'accord, il y a des trous dans l'image, mais l'œuvre était bien là, entière, dans sa matérialité, et j'étais face à elle, en chair et en os. Cela est surtout vrai pour l'art moderne. Un croquis peut au moins expliquer comment le petit pan de mur jaune est encadré par les masses ocre aux toitures bleues d'une enceinte, de sa tourelle et de la bâtisse qui est attachée. Mais qui prétendrait retrouver de tête l'orientation des coups de pinceau sur une toile de Dekooning ou dessiner pour un interlocuteur qui ne l'aurait jamais vu l'enchevêtrement d'un drooping de Pollock ou trouver les mots qui rendraient compte des imperceptibles nuances chromatiques d'un Reinhardt alors que le souvenir de la confrontation avec leur superbe intégrité physique demeure vivace. Au mieux, retient-on l'impression d'ensemble, l'environnement, le décor, la salle du musée que l'on pourrait décrire précisément, où s'est produite la saisissante, indicible épiphanie de l'œuvre à laquelle on suspend quelques malheureux détails comme des flotteurs qui les maintiennent à la surface de la mémoire. Devant des œuvres que j'ai rêvé de voir parfois pendant des années, pour lesquelles j'ai traversé des frontières ou un océan, je sais immanquablement que la question va se poser et soulever une angoisse. Suis-je certaine que mes yeux s'en pénètrent complètement ? Suis-je bien le réceptacle totalement ouvert, neutre, lisse, à l'intérieur duquel elles vont déposer leur reflet intégral ?
Catherine Millet, lecture d'un extrait de votre livre Commencement, et chacun aura pu se rendre compte que cela est très sérieux, la façon dont vous parlez de l'art et cette question de la présence à l'art du corps. C'est une question centrale, en fait, dans votre vie et dans votre œuvre littéraire. Et d'ailleurs, la présence au monde, la présence à la sexualité, au corps et à l'art, tout ça se confond. Vous parlez à un moment de liquide amniotique dans lequel vous baigneriez.
Oui, Alors, je suis allée chercher cette image un peu bizarre parce que je rappelle au début de ce livre que j'étais une jeune fille très, très timide. J'avais d'ailleurs, comme beaucoup de jeunes filles, des complexes. Vous voyez, je me trouvais moche, quoi. Ou pas, j'étais pas si sûre d'être vraiment un peu jolie. Bon, mais surtout j'étais timide parce que j'avais très envie d'être remarquée par des gens que j'admirais, voilà, qui commençaient eux, qui étaient mes aînés, qui commençaient eux à faire des choses dans le monde de l'art. Mais qu'est-ce que j'avais à leur proposer pour venir travailler auprès d'eux? J'avais encore rien, donc j'étais très réservée. Et au fur et à mesure que j'ai quand même trouvé ma place, que j'ai commencé à publier, que j'ai été rassurée sur mes capacités d'écriture, etc. Bon, là, j'ai commencé à avoir l'impression de recréer une sorte de famille autour de moi, voilà, qui me rassurait. Et cette famille, comme le monde de l'art était assez étroit à l'époque, c'était mon entourage à Paris, mais je retrouvais plus ou moins les mêmes à New York, ou plus ou moins les mêmes les jours de vernissage à Venise, etc. Et donc je baignais comme ça dans cette atmosphère qui était d'ailleurs extrêmement amicale à l'époque. Les gens de cette famille-là, si je puis dire, n'étaient pas si nombreux. Ils étaient assez solidaires. Ils savaient bien qu'ils étaient un petit peu à part dans la société. Bon, et il y avait une chaleur comme ça dans les rapports qui, aujourd'hui, pour une part, se sont perdus. Si vous allez dans une grande foire d'art aujourd'hui, cette chaleur, c'est surtout celle
de la masse.
De la masse, oui, plus que celle des sentiments.
Mais à l'époque, on a le sentiment que tout est possible. Tous ces hommes et toutes ces femmes, il est possible aussi bien de faire l'amour que de parler d'art.
Oui, on faisait les deux d'ailleurs, des fois avec les mêmes. Oui. Mais tout est possible aussi pour les artistes. C'est-à-dire que, moi je n'avais pas fait d'études, mais beaucoup des artistes qui ont démarré à cette époque-là n'étaient pas plus passés par une école d'art, par exemple. Ils avaient simplement besoin de faire quelque chose, de s'exprimer, de trouver à communiquer avec autre chose que les moyens qui étaient repérés. Donc, ils allaient chercher, comme je le dis, des fois des objets dans les décharges publiques, puis bricoler un truc, et puis il se trouve que ça intéressait des gens, et puis voilà.
Est-ce que ce livre, Catherine Millet, est un livre sur la liberté? Parce que vous avez été beaucoup critiquée, vous avez beaucoup choquée au moment de la vie sexuelle de Catherine M, mais aussi au moment de MeToo, vous avez revendiqué la liberté d'être importunée, vous avez aussi dit que vous étiez contre les lois, contre le harcèlement ou les violences faites aux femmes.
Alors, je nuance un peu. J'ai pas dit que j'étais contre les lois, qui interdisent la violence faite aux femmes. Tout dépend de la violence. Si la violence c'est un mot malheureux et puis un geste mal placé, oui, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller chercher le gendarme dans ces cas-là. Bon, s'il y a une agression plus caractérisée, comme on dit, oui, quand même, là, la loi elle est nécessaire. Je l'ai jamais nié, quand même. Bon, mais oui, mon livre, c'est vrai. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis rendu compte que peut-être j'écrivais ce livre aussi pour témoigner d'une époque où on se prenait pas la tête, quoi, où les rapports entre les hommes et les femmes notamment étaient très très simples, très très directs, et donc ça créait une très grande liberté des uns et des autres. Oui, on a vécu très librement. Oui.
C'est le mot qui vous convient le mieux. Merci Catherine Millet.
Merci à vous.
Commencement est édité chez Flammarion. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation, et on se retrouve demain.